Inouï, une émission
de création
et documentaire sonore
par les étudiants du Créadoc d'avant,
vraiment dans la tradition du terroir
et d'aujourd'hui.
Chères auditrices, chers auditeurs, Inouï, l'émission itinérante des étudiants du master de création documentaire d'Angoulême, vous propose une émission spéciale depuis Brest. À l'occasion de Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute, nous sommes allés à la rencontre de lycéens de Douarnenez qui ont fabriqué leur première pièce radiophonique.
Dans le cadre d'une résidence orchestrée par Alexandre Planck, metteur en scène et réalisateur pour France Culture, ils nous présentent leur production d'une quarantaine de minutes. Demain s'ouvre au pied de biche. Plongez au cœur de Douarnenez, au lendemain d'élections peu communes, et vivez une expérience sonore où s'entremêlent fiction et réalité.
En mai dernier, c'était les élections. Et ici, à Douarnenez, la campagne n'a pas eu l'air d'intéresser grand monde. Ça n'a, comme qui dirait, pas pris.
La campagne, j'aime pas trop cette année.
D'accord.
Moi, je trouve qu'ils parlent beaucoup des petits problèmes qu'il y a entre les candidats, puisque de ce qu'ils vont vraiment faire pour la France, quoi.
Je me suis pas encore penché réellement, du coup, je sais pas quoi.
Il y a trop de politiciens corrompus, c'est vraiment du n'importe quoi, on sait même plus où se placer.
Peut-être parce que Douarnenez, c'est déjà le bout du monde, ou presque déjà un nouveau continent, avec une autre histoire, d'autres aspirations et une vision un peu différente de ce que devrait être la société.
Bref, ce qui devait arriver arriva en 2017. Personne n'est allé voter, ni au premier, ni au second tour.
Et pour tout vous dire, les bureaux de vote n'ont même pas ouvert ces jours-là.
Ah bah vous voyez bien, c'est fermé là. On peut pas rentrer. Impossible.
Mais attention, rien à voir avec l'abstentionnisme, le repli identitaire ou un désintérêt pour la politique. Bien au contraire.
En fait, ici, à Douarnenez, la plus petite commune du Finistère, plutôt que de suivre des règles qui ne marchaient pas très bien, on s'est dit qu'il était grand temps d'inventer autre chose.
Évidemment qu'on n'a pas voté. Ça fait l'année qu'on vote et fait de pire en pire.
Alors on en avait marre, hein. On comprenait plus rien de ce qui se passait dans ce pays.
Bah on voulait les trouver nous-mêmes, les solutions, et puis voilà.
Après les élections ou les non-élections, tout s'est enchaîné très vite.
Zéro vote sur une commune de 14 000 habitants. C'est sûr, ça la fout mal. D'abord, on a été très mal vus.
C'est une honte absolue. Alors messieurs, prenez vos dispositions, prenez vos responsabilités.
Puis, très maltraité.
La position du gouvernement est très ferme. Les allocations chômage ainsi que les différentes aides gouvernementales vont être supprimées sur le périmètre légal de Douarnenez. Et nous ne reviendrons pas là-dessus.
Et ça a été de pire en pire.
L'État français qui donc petit à petit retire ses billes de la ville de Douarnenez.
Que faire d'une ville qui ne remplit en rien son devoir vis-à-vis de l'État?
Qui se détourne de l'unité territoriale?
De la République?
Qui se refuse à participer aux jeux démocratiques? Ou à sa mascarade?
En fait, à Paris et à Bruxelles, tout le monde se demandait. Est-ce que Douarnenez ne serait pas un exemple dangereux pour le reste du pays? Et même pour le reste de l'Europe?
Après 3 semaines de flottement, le verdict est tombé.
On l'a appris par voie de presse, à la télé et à la radio. Parce que personne n'a eu le courage de venir nous le dire en face.
C'est inédit en France, Douarnenez dans le Finistère sera donc la première ville autogérée du pays. Elle sera entièrement coupée, administrativement et financièrement, du reste de la nation.
C'en est fini de l'argent public attribué aux hôpitaux, aux écoles et aux entreprises. C'est une rupture violente et déterminée. La commune de Douarnenez se voit désormais privée de tout financement public.
On a essayé de nous affamer.
De nous mettre au banc.
De nous exclure du grand roman national.
On nous a traités de tous les noms, et on n'avait plus un sou. Mais d'une manière ou d'une autre, on a eu ce qu'on voulait. La liberté totale d'inventer autre chose, de rêver un peu, de chercher des alternatives.
Et finalement, en ville, on en est venu à considérer tout ça comme un acte de sécession.
On a considéré avoir pris notre indépendance.
Et c'est là que les problèmes ont commencé.
Demain, s'ouvre au pied de biche.
Nous, lycéens, on n'a pas eu le droit de voter.
Donc, techniquement, on n'a pas vraiment eu le droit de ne pas voter.
Par contre, maintenant qu'ici tout est sans dessus-dessous et qu'il faut tout reconstruire, on a bien l'intention de s'en mêler et d'aider nos parents à trouver des solutions.
Enfin, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'aux réunions publiques et aux assemblées générales, on n'arrivait jamais à remplacer une.
On ne nous prenait pas au sérieux. C'est limite si on nous laissait rentrer dans la salle des fêtes.
S'en fout, mais laisse-moi rentrer.
D'accord,
T'as même pas 16 ans, allez, dégage, allez, bouge.
De toute façon, on s'est bien vite aperçu que vouloir refonder une société, c'était parfois compliqué. Très compliqué. Très très compliqué. Alors un jour, avec d'autres lycéens, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble, on s'est réunis dans une salle du lycée. Le lycée, qui continuait tant bien que mal à
tourner.
Et pour mettre un peu nos idées au clair, l'un d'entre nous a proposé quelque chose.
On n'a pas tout de suite été convaincus.
Mais quelqu'un s'est souvenu que l'Académie de Nantes avait laissé du matériel dans un carton du CDI. Alors, on est allé tenter de le récupérer.
Bonjour Madame Lostanlen. Est-ce qu'on pourrait récupérer le carton violet du projet radio qui avait fait un moment les premières ailes avec le mec de la radio là, de France Culture, vu que bah, maintenant on n'est plus en France. Donc,
Et voilà, en deux temps trois mouvements... C'était parti.
Allô, allô.
On avait entre les mains un moyen de s'exprimer et de se faire entendre.
Bah, c'est hyper gênant de s'entendre parler.
Enfin, presque.
Comment faut-il mettre sur pause ?
D'abord, il a fallu qu'on apprenne à utiliser des enregistreurs.
Et à parler dans des micros.
C'est une erreur.
Parfois, on n'a pas trouvé le bon bouton. Et puis, parce qu'on voulait échafauder quelque chose de fédérateur et y associer tous les habitants de la ville, il a fallu qu'on apprenne à poser des questions.
Pour comprendre ce qu'aimaient les gens.
Ce dont ils avaient besoin.
Et ça n'a pas toujours été simple.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ait mis en place... Est-ce que quelqu'un a eu un avis dessus ou pas ?
Ni vraiment concluant.
Ça enregistre.
En fait, moi, ce que je vous propose, c'est d'être votre président, si vous voulez, de Douarnenez. Moi, ce que je vous propose actuellement...
Mais on a persévéré.
C'est de refaire le monde. Moi, ce que je vous propose, qu'on se bouge un peu le cul.
Encore ?
J'ai envie que ça change, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que ça avance la vie, quoi. Merde, on veut grandir, on veut avancer, on veut vivre.
Et encore ?
Je vous dis à tard plus, quoi.
Ouais.
Vous n'avez pas Facebook ou Snap, les filles ?
Non.
Là, vous auriez un truc, vous auriez laissé un pseudo, on aurait rigolé. Bah, au plaisir, alors.
Ouais. Bonne journée. Merci beaucoup.
Je vous en prie, bonne après.
Finalement, parce qu'il fallait bien commencer quelque part, on a demandé aux élèves du lycée ce qu'ils aimeraient voir changer en ville.
Là, on est devant le lycée et on va poser des questions aux gens. Voilà.
Quelle est ta première question à poser à Pierre Balanet ?
Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit mis en place à donner ? Genre qu'il y ait des choses qui changent ?
Je veux que tout le monde se balade nu dans la ville.
Trop gênant.
C'était pas gagné. Surtout lorsqu'on a compris qu'en réalité, pas mal de gens n'aimaient pas Douarnenez.
Est-ce que t'aimes Douarnenez ?
Pas du tout.
T'aimes pas Douarnenez ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que la ville est sale, il y a beaucoup de racailles et des SDF. Et je trouve qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur et que ça pue beaucoup le poisson.
Et c'était pas tout.
On voulait savoir qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez pas dans la ville.
C'est une ville de vieux.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a que des vieux.
Bah du coup, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans
un... Il y a plus de jeunes.
Dégager les vieux, quoi.
Mais des universités,
des grandes écoles, des technopoles.
Ça, c'était plus concret, mais pas tellement plus enthousiasmant. Et puis, on a enfin trouvé quelqu'un qui savait apprécier le charme de la ville.
Ses plages, ses paysages, le caractère authentique du centre-ville, les bars. S'il y avait une chose qu'on pourrait rajouter ou changer à Douarnenez, ce serait...
Amener plus de commerce pour qu'il y ait un peu plus de vie dans le centre-ville. Ouais, parce que c'est un peu désertique.
Un tacos.
Merci. On a aussi cherché à savoir ce qui leur manquait à Douarn, à nos petits camarades.
Rajouter quelque chose, des vagues, toute l'année. Non, rajouter quelque chose, du soleil toute l'année. Moins de pluie, plus de respect. Et de la gentillesse.
C'est bien beau la gentillesse, on s'en souviendrait. Mais de quoi est-ce qu'ils ne voulaient plus ? En vrai, les élèves du lycée.
En fait, ce qui est énervant maintenant chez les politiciens, c'est qu'on a l'impression qu'ils font ça que pour le pouvoir, que pour eux et pas pour la France. Et je pense que Douarnenez, là, le fait qu'ils n'aient pas voté et qu'on devienne un pays, on va tous s'unir pour créer des vraies lois et ce ne sera pas une question de pouvoir cette fois. Et je trouve ça merveilleux.
Voilà qui nous voit droit au cœur.
Et du coup, le fait que Douarnenez devienne indépendance, ça te tente ou pas ?
Ah bah oui, moi je veux qu'on ait un drapeau, un hymne, une monnaie.
Mais on y réfléchit à tout ça.
Si ça marche, c'est génial.
Ah, on allait peut-être enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Moi, en grande base, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire comme dans le méchant dans James Bond. C'est aller dans l'espace, ouais. Avec que des mannequins. Balancer un poison mortel sur la planète pour recréer l'humanité.
Ok, c'est pas gagné.
Première expérience, pas très concluante.
Parce que c'est sûrement pas en rêvant de James Bond, de Technopole et de KFC qu'on arriverait à faire de Douarn un pays un peu plus agréable que la République française.
Donc, on s'est dit, si on ne sort pas du lycée, il y a peu de chances qu'on arrive à quelque chose.
Alors on a traversé la rue, puis on est allé à la maison de retraite des Jardins du Clos rencontrer les pensionnaires. Ils auraient sûrement des choses à nous apprendre, puisqu'ils avaient connu les grandes heures de la ville et du port de Douarnenez.
Vous étiez marin, hein ?
Oui, sardé. À l'usine rouge, où il n'y a plus rien du tout.
Alors, on a eu des discussions.
Et le travail, c'était comment, à l'usine et
tout ? Moi, je suis allée à 12 ans à l'usine.
À 12 ans,
je commençais jeune. Hein. C'était pas la même vie.
C'est pas la même vie. Et il y avait du travail.
Des discussions.
Il n'y avait pas de machine à laver. On allait au lavoir. Il n'y avait pas de voiture à l'époque.
Et des discussions.
Le port n'était pas comblé comme il est maintenant. Quoi.
Et on a beaucoup, et alors là, beaucoup,
sur la digue,
beaucoup aussi, appris sur le passé.
La digue, on dit, on s'asseyait sur le mur.
Mais pas exactement sur ce qu'on pourrait faire dans le futur.
Puis en déambulant dans la maison de retraite, on a fini par rencontrer Solange, qui buvait un petit coup à la cafétéria.
Comme je suis d'éducation communiste, hein, ce serait la liberté pour tous. Et en plus, ah non, n'enregistre pas. Waouh, attends, je cherchais mes mots, là. T'es un peu bête.
Solange, 81 ans, et tout un tas d'idées sur ce dont on a besoin à Douarn.
Bah, ce serait, comme je dis, la liberté pour tout le monde, du boulot pour tout le monde. Ça, malheureusement, c'est très utopique et il faudrait qu'on soit au paradis. Donc, le paradis n'existant pas.
Le travail à Douarnenez, voilà assurément une piste à creuser.
Mais du coup, pour le boulot, est-ce que ce serait plus le rétablissement de la pêche le...
Bah, déjà, il faudrait... Bah, la pêche d'Ordonnée, depuis un certain temps, la pêche n'arrive plus. Bah, le poisson n'arrive plus comme avant. D'abord, on ne pêche plus pareil. Alors, il faudrait revenir aux vieilles méthodes du filet droit pour avoir à mettre en boîte du poisson frais. Du poisson qui soit bien droit, qui soit pas écrasé, qui soit voilà. Mais ça, c'est utopique aussi.
Bah du coup, justement, on peut balancer un peu des
idées
comme
peut, ça. Ouais, c'est utopique. Il faut repartir dans l'ancien temps. Alors au lieu d'être deux marins à bord d'un bateau, ils seront comme dans le temps 14. Et les pauvres vieux, ils tireront sur les filets avec leurs mains pour. Non, ça, il faut dire aussi que c'est revenir dans l'ancien temps, c'est bien, mais complètement, c'est pas bien non plus. Est-ce que vous vivriez sans Internet ?
Non, je ne pense pas.
Touché.
Alors moi, je ne vivrais pas sans électricité. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas revenir en arrière parce que ce serait ridicule.
D'accord, on ne repartirait pas dans l'ancien temps et on n'allait pas se remettre à pêcher comme au siècle dernier. Mais grâce à Solange, on y voyait déjà un peu plus clair. Quoi qu'on décide de faire, il allait falloir fouiller le passé de la ville si on voulait envisager son avenir.
Mais en attendant, et parce qu'on n'avait pas non plus envie de sombrer dans la nostalgie, on a envoyé une autre équipe de la radio rendre visite aux élèves de l'école primaire de l'ANEC.
Pourquoi vous êtes là ?
Histoire d'imaginer un peu ce que les petits pourraient faire avec nous pour le nouvel état douarnéniste.
Comment tu t'appelles ?
Eddie Le Saoud.
Et toi ?
Au début,
Evan.
Vous aimez bien douarnéné ?
Tout,
ouais.
C'est
vous aimez bien l'école ?
Bien.
Bof.
Passé.
J'aime pas en classe.
Pourquoi ? T'aimes pas à quoi ? C'est pas bien !
Viens, mon René, vite !
Mais tu as du tambour ! Les enfants de la famille !
Mais une fois arrivé dans la salle de classe, c'était un peu plus difficile qu'on croyait de discuter avec des enfants. On a pourtant commencé avec des questions basiques.
Alors, pour vous, c'est quoi Douarnenez ?
Tic, tac, tic, tac, tic, tac.
C'est une ville ?
Et la France ? C'est quoi la France ?
Ça devenait gênant.
Un pays ?
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que c'est la politique ?
Très gênant.
C'est pour donner son avis et diriger la France.
Gênant, mais tellement mignon.
Alors, on a posé des questions un peu plus simples.
Il y en a d'entre vous qui savent quel métier ils veulent faire plus tard ?
Pêcheur. Agriculteur, vétérinaire, architecte, agent immobilier, styliste, être président.
Et si t'étais président, tu ferais quoi ? Tu rajouterais quoi dans le monde ?
Plus de magasins.
Des magasins de quoi ?
De foot.
Au moins, on ne manquerait pas de bonne volonté dans les années à venir. Et la relève était assurée.
On était sur une bonne lancée. Alors on a décidé d'être un peu plus ludique. Et on a joué à imaginer la voiture du futur produite à Douarnenez.
On pourrait faire voitures avec des roues et c'est des voitures gonflables ou des voitures volantes.
Première hypothèse, 10 sur 20, innocent et mignon.
Bah sinon, au lieu de mettre de l'essence, on mettrait de l'eau ou quelque chose comme ça, ou du lait.
Ok, 5 sur 20, le carton. L'important, c'est de participer.
Sinon, on peut faire des voitures volantes, mais avec le vent. Comme ça, on met une turbine. Enfin, je sais pas comment on dit.
C'est des hélices que tu veux dire.
Des hélices. Et puis, on met un moteur. Mais ça fait juste tourner. Et comme ça, on part.
9 sur 20. Dommage que ça existe déjà. Ça s'appelle un hélicoptère.
Faudrait qu'on se construise des ailes. Comme ça, on peut voler partout. Mais ça prend pas d'essence non plus. Parce que si on se construit des ailes, bah, ça pourrait être bien au lieu des réacteurs qui nous propulsent avec plein de gaz.
Ah, voilà. Enfin un projet solide. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire si on veut fonder ici une industrie automobile et produire des voitures à l'image de la ville.
Un peu plus tard, on est retourné au lycée. Entre les réflexions de Solange et les voitures à propulsion des CM2, des pistes étaient en train de se dessiner.
Prochaine étape. On s'est dit qu'il fallait qu'on en apprenne un peu plus en politique. On est donc allé voir le prof de philo, avec en tête une idée bien précise. L'interviewer sur la notion d'utopie, un terme qu'avait employé Solange à la maison de retraite,
bonjour,
et qui nous serait certainement très utile.
Du coup, nous sommes à Douarnenez aujourd'hui, et Douarnenez est en plein changement. Douarnenez change, Douarnenez évolue, Douarnenez est autonome. Du coup, on peut se demander si ce Douarnenez-là va-t-il devenir quelque chose d'utopique, quelque chose de... un peu le pays de cocagne des douarnenistes. Du coup, on aimerait te demander qu'est-ce que c'est la définition philosophique de l'utopie.
Et là, le prof de philo nous l'a faite à l'envers.
Moi, je n'en sais rien, donc qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Je pense que quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui convient où on est bien, où toute la population, toute la société est bien, mais aussi où on peut tous évoluer selon nous-mêmes, enfin tous évoluer en se respectant.
Puis il nous a carrément embrouillés.
Donc si je comprends bien, l'intérêt d'une utopie, c'est qu'elle nous permet de transformer la réalité.
Nouvelle tentative.
En fait, l'utopie, c'est aussi une sorte de rêve qui n'est pas forcément réalisable, parce que justement, si c'est quelque chose de parfait... ça sera peut-être pas forcément réalisable aussi.
Nouvelle déception.
Quel est l'intérêt d'un rêve qui n'est pas réalisable? Juste rêver pour rêver?
Oui, pour rêver, pour se rendre, pour être heureux. Et pour pouvoir se dire que les choses peuvent être améliorées et pas rester dans notre petit... je sais pas le mot, mais... dans nos...
après qu'on ait rêvé, est-ce qu'il ne faut pas revenir à la réalité un moment?
Et finalement, le prof de philo a fait le prof de philo et on n'est pas sûr de savoir où il a
mais
voulu en venir.
Pour vous, c'est quoi l'utopie? Comme vous avez donné le mot utopie, si vous devez le définir à un enfant, ça, vous le définirez comment?
Je crois que je partirais de l'étymologie du mot, de l'idée que c'est la représentation d'une société idéale, enfin, qu'on considère comme idéale, et que la vocation d'une utopie, c'est effectivement... plutôt de nous permettre de transformer ce qui est, plutôt que d'être appliqué en tant que tel. Probablement que, effectivement, une utopie n'est pas réalisable, de fait, en tant que tel.
En fait, on avait fait fausse route. Pour le moment, c'est pas la philosophie qui nous aiderait. On avait besoin de quelque chose de plus consistant. Alors, on a préféré aller voir ailleurs.
Mais sur le chemin de la sortie, on a croisé deux élèves, et on s'est quand même laissé une dernière chance.
On va poser quelques questions sur l'utopie à deux élèves du lycée, donc Malo et Maxime. Donc Maxime, qu'est-ce que l'utopie d'après toi?
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Pas du tout. C'est en gros, étymologiquement, c'est une société idéale.
Ah, d'accord.
Du coup, qu'est-ce qui serait d'après toi une société idéale?
Une société idéale?
Une société rêvée, ton rêve de société.
Mais attends mec, ta question. Attends, c'est dur ta question.
Bon, et vous voulez te poser cette question? En tout cas, tout cela prouvait une chose. Impossible de construire un monde en ne partant de rien. Personne autour de nous n'y arrivait. On aurait donc besoin d'expériences et de modèles un peu plus concrets si on voulait aider nos parents à ne pas trop se planter en réinventant Dora.
Il fallait qu'on reparte des racines de la ville, de ce qui avait fait sa force depuis des décennies. On a donc envoyé une équipe interviewer Isabelle, la médiatrice du Port Musée, pour comprendre un peu mieux ce sur quoi les habitants de Douarnenez ont autrefois fondé leurs espoirs.
Douarnenez a un passif
militant, pour ne pas dire parfois révolutionnaire. Donc effectivement, ça ne me surprend pas du tout que Douarnenez fasse sécession. Ça me semble tout à fait logique.
Avec des mots comme ça, Isabelle avait tout pour nous plaire.
On a entendu parler d'un événement qui date de 1924, qui a un peu déclenché ce mouvement révolutionnaire à Douarnenez. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr. Alors 1924, ça fait suite à quand même quelque chose qui est fondamental pour comprendre aussi cette histoire, qui est en fait une histoire de grève. C'est qu'en 1921, donc quelques années avant, Douarnenez a élu le premier maire communiste de France. Et donc en 1924, se produit fin 1924 une grève très importante et elle fait suite en fait à des revendications des ouvrières d'usine.
Voilà, on y était. Les fameuses peines sardines dont on nous parle depuis qu'on est enfant.
En fait, Douarnenez a vécu pendant très longtemps de l'activité autour de la sardine et ses ouvrières d'usine. Il y avait 40 conserveries à Douarnenez qui employaient chacune à peu près une centaine de femmes. Et ces femmes, elles travaillaient en fonction de la pêche. Donc parfois, les journées étaient très longues, le travail était très dur. Et donc ces femmes, elles commençaient à revendiquer un petit peu des conditions de travail meilleures et un salaire meilleur. Et donc tout ça pour vous dire que ces femmes, elles ont fait grève entre 6 et 7 semaines. Donc il fallait tenir hein, quand même pendant toute cette période. Mais finalement, après moult péripéties, les briseurs de grève qui voulaient mettre le feu à l'usine, on a tiré sur le maire, etc., etc. Il s'est passé des tas de choses. Mais bon, finalement, au bout de, je vous dis, 6 semaines à peu près, elles ont obtenu satisfaction et sont retournées travailler, on ne va pas dire le sourire aux lèvres, mais avec un certain enthousiasme.
On comprend mieux maintenant pourquoi la sécession. C'est de là qu'on venait, du combat de ces femmes pour leurs droits et leur dignité.
Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça a été très très fondateur d'un état d'esprit à Douarnenez que si on se groupe, on peut obtenir, même si on est des petites gens à la base, la solidarité fait qu'on arrive à obtenir quand même, on arrive à atteindre ses objectifs. Et voilà, la solidarité permet d'obtenir des choses qui, à la base, semblaient complètement dingues.
Mais voilà les anciens, nos anciens, et leur force, leur audace, leur solidarité, c'est des peines sardines dont il faudra s'inspirer pour créer notre nouveau pays, de celles qu'on appelait alors les étêteuses, les cuiseuses, les emboîteuses, les sécheuses ou les saleuses, de ces femmes qui gagnaient une misère en travaillant jour et nuit et qui ont défié leur patron, la police et même l'armée, de cette poignée de travailleuses qui ont fait souffler sur la ville un vent de révolution et de liberté.
En finissant notre visite du Port-Musée avec Isabelle, on est tombé sur Erwan, un pêcheur de sardines à la retraite. Et Erwan n'a fait que confirmer nos intuitions.
C'est un beau projet, c'est un beau travail. Il va falloir que les Douarnenistes se rassemblent pour construire quelque chose ensemble. Et c'est ce qu'on attend en tant que Douarnenistes depuis quelques années. Les Douarnenistes sont aussi ouverts sur le monde. Et c'est des ports. Et c'est vrai que les ports sont... C'est pas faire sécession, c'est peut-être d'être ouvert sur d'autres choses. C'est effectivement de dire, on tourne le dos à des choses qui sont un peu stériles, qui nous oublient, on est un peu au bout du Finistère. Donc il y a un moment donné, on se prend en charge. Et donc on y va, et puis on va peut-être trouver d'autres formes d'alliés, de partenaires pour construire une autre histoire de notre ville et de notre région.
On a l'habitude de dire à Douarnenez que c'est pas le Finistère, donc c'est pas la fin de la terre, mais le début du monde.
Le nom en breton du département, c'est Pénarvel. Pén, c'est la tête en breton.
C'est pas le bout,
c'est la tête. Pénarbet, c'est la tête du monde, voilà, pour traduire littéralement.
On avait compris le message.
En sortant du Port-Musée, on a entrepris de recenser toutes les initiatives populaires, écologiques ou alternatives qui existaient déjà à Douarnenez et qui pourraient remplacer les institutions françaises qui avaient déserté. Tous ceux qui allaient participer concrètement à l'évolution de la ville et faire bouger les lignes.
En premier, on allait voir les peines rustines. Un collectif qui avait émis, dès la sécession de Douarnenez, le souhait de voir la ville se vider de ses voitures.
Ils n'allaient pas s'entendre avec les CM2 et leurs voitures à hélice, évidemment. Mais il fallait aussi qu'on apprenne à travailler tous ensemble, pas vrai ?
On a donc enfourché nos vélos et on a filé route d'Audierne pour retrouver Nathan, qui avait beaucoup à nous expliquer sur l'avantage d'une ville ou d'un pays sans plus aucune voiture.
Si on virait toutes les voitures de Douarnenez, sur un carrefour typique, il y a 60 à 80% de la surface qui est prise pour les voitures. Ouais. Si on enlève les voitures, c'est-à-dire qu'on peut récupérer en aménagement 60 à 80% de la surface. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette surface-là ? On peut mettre 5 ou 10% pour les vélos. Ça laisse la place de faire une piste cyclable dans un sens, une piste cyclable dans l'autre sans problème. Et ça nous laisse encore une grosse marge d'improvisation. Alors là, végétalisation, parc, tramway. Alors là, ça... Mon rêve, hein. Clairement, c'est surtout si on enlève les voitures, on enlève aussi les places de stationnement. C'est s'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus besoin de les garer. On a de la place pour faire des plantes, hein. Ça y est, pas de doute. Hein.
Un pays entier sans plus un seul pot d'échappement et dont les routes seraient mises à disposition des habitants et de la végétation. Évidemment, ça paraissait tentant. En quittant Nathan, on a pris la direction du port pour rendre visite à une autre association, TOT, qui travaillait également au développement de moyens de transport alternatifs et qui avait pour objectif de faire de Douarn une zone maritime écologique.
Pour comprendre la révolution que l'association était en train d'initier, on a retrouvé Nathan dans un petit local du port.
Alors, le premier intérêt, c'est vraiment l'intérêt écologique, c'est celui qu'on met le plus en avant, parce que c'est quand même quelque chose qui commence un petit peu à parler aux gens. Et donc, on a des chiffres qui sont assez éloquents. C'est 4% des émissions de CO2 aujourd'hui qui viennent du transport maritime. Donc 4%, c'est plus que l'Angleterre, en fait, hein, plus que le pays Angleterre. Sachant qu'il y a en plus des émissions de CO2, il y a des émissions de soufre. En fait, les cargos, ils consomment un carburant qui n'est pas l'essence de vos voitures, mais qui est ce qu'on appelle du bunker, qui est un espèce de résidu de pétrole. C'est très dur, hein, on ne peut pas planter un couteau dedans. Et donc, ils brûlent ça, ils brûlent des milliers de tonnes par jour. Et en fait, ça fait des émissions de soufre et après, ça fait des pluies acides. Écologiquement, c'est dramatique.
Et pour Douarn, ça représenterait des enjeux énormes.
Alors, je pense que maintenant que Douarnenez est indépendant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on essaye de trouver forcément un moyen de faire vivre notre nouveau pays douarneniste. Et le transport à la voile, être capable de montrer au monde que le transport à la voile, c'est rentable et que ça fonctionne, je pense que c'est un très bon moyen. Donc si on se retrousse tous les manches pour construire un voilier cargo tous ensemble, on va gagner plein d'argent. Et en plus, derrière, après, on aura un superbe savoir-faire, des superbes talents que tous les pays voudront avoir. Et donc, on pourra exporter notre savoir-faire et exporter des voiliers cargo à travers le monde. Et Douarnenez sera le pays qui porte le transport à la voile dans le monde. Ce sera vraiment magnifique.
Sur le chemin du retour, on a entendu de la musique. On est rentré dans la MJC et là, on est tombé sur une fanfare. Elle était dirigée par Martin, un percussionniste qui nous a dit vouloir composer un hymne pour Douarn.
On est resté écouter un peu. Une fois rentré au lycée, on est allé faire un petit tour dans la classe du prof d'histoire, M. Brass, pour qu'il nous parle un peu des différents systèmes politiques imaginables et transposables à Douarnenez.
Parce qu'on avait sérieusement l'intention de ne pas laisser se reproduire ici tous les faux-semblants qui s'étendaient au-delà des frontières de la ville.
Alors, on a laissé Saskia lui poser des questions. Il s'en dépatouillerait bien.
Est-ce que tu penses, si on s'intéresse à Douarnenez même, est-ce que tu penses avec les antécédents de Douarnenez,
est-ce que tu sais comment justement cette démocratie-là elle pourrait améliorer, enfin Douarnenez, en laissant parler chacun, en chacun ayant une voix. Comment cela pourrait améliorer justement la politique de Douarnenez? Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais voilà.
Allez, courage, monsieur le professeur.
Dans une démocratie représentative, telle qu'elle fonctionne, en tout cas dans les grandes démocraties modernes. Ça fonctionne un petit peu comme une compétition et c'est le groupe arrivé en tête qui gouverne. Ce qui veut dire qu'une partie de la population n'est pas représentée, du coup, n'a pas du tout voix au chapitre.
Ok, ça, c'est ce dont on ne voulait plus, mais il y avait une alternative.
Dans le cas d'une démocratie participative, on doit pouvoir trouver un moyen de faire, comme le mot l'indique, participer davantage les gens. C'est d'ailleurs presque un pléonasme que de dire démocratie participative, puisqu'en principe, démocratie, ça devrait déjà être participatif.
Une démocratie ouverte à tout un chacun, et qui ne prétendrait pas seulement l'être, voilà quelque chose qui pourrait nous intéresser. Maintenant, on voulait être sûr de bien comprendre comment ça marche.
Sur le plan de la décision, dans une démocratie participative, il faudrait imaginer que les habitants, alors, est-ce que c'est tous les habitants? Est-ce que ça doit être à partir d'un certain âge? En tout cas, on va dire pour commencer, tous les habitants devraient pouvoir se réunir pour décider ensemble des grandes orientations de la politique au sens large de la nouvelle communauté, du nouvel État douarneniste.
Très bien. Mais nous, on l'avait vu le bordel aux assemblées générales, après le Douarnenexit. les gens qui s'engueulent et personne qui s'écoute. Alors, on peut se demander si c'était pas un peu trop idéaliste comme structure d'État.
Ça me fait penser à cette blague. Qu'est-ce que c'est qu'un chameau ? C'est un cheval qui a été dessiné par une commission. Ça veut dire qu'à partir du moment où plusieurs personnes interviennent, chacun y va de son idée, chacun y va de sa proposition, et finalement, le résultat peut être un peu bancal. Et ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que la construction soit cohérente et aille dans le sens de l'intérêt général, ce qui est loin d'être gagné.
Grâce à M. Braz, on tenait une nouvelle piste, mais si fragile qu'il allait falloir qu'on l'approfondisse. Sur le papier, aucun système ne semblait idéal. Et nous, on ne voulait pas que notre utopie surnage entre des petits chefs et des bastons généraux. Pourtant, il devait bien exister un remède miracle.
En quittant le prof d'histoire, on a eu besoin de repasser des hypothèses à l'étude de terrain. On a alors filé au jardin partagé de Kermaron, dont on avait entendu dire qu'il pourrait un jour mener Douarn sur les voies de l'autosuffisance alimentaire.
Là-bas, on est tombé sur Francis et Raymond.
On fait la pause ici. Bonjour. Vous vouliez vous dire de voir dans le petit jardin. On vient même des fraises qui poussent là, tu vois.
Première question, histoire de savoir un peu où on mettait les pieds. Ils étaient combien à se les partager, les jardins de Kermaron ?
Myriam, combien on connaît à peu près ici ?
Ici, on a encore une quinzaine, une vingtaine.
Plus que ça. Plus que ça. Tiens, regarde. Déjà, le
personne ne semblait bien sûr.
Et de l'autre côté, il y a... De l'autre côté, il y a au moins une quinzaine.
Bon, on peut le mettre, on va le 25.
Deuxième question, à toi Bertille.
Ça fait combien de temps que vous faites votre parcelle ?
Oh mon Dieu. Depuis moi, 2001. Bon, moi, quand les jardins étaient là-haut. Bon, oui, ça fait un petit moment, au moins 20 ans, au moins. À la retraite.
Voilà. Ouais. Et moi, à l'après-retraite, parce que j'allais voir les collègues là-haut, et puis je me dis, pourquoi tu ne prends pas un petit morceau de terrain ? Bon, je dis, mais moi, je n'ai jamais jardiné de ma vie. Je ne connaissais rien du tout. Oh, ben, on te montrera comment on fait, quoi.
Et c'était quoi, d'après eux, l'histoire des jardins partagés ?
Je pense que c'est, je ne sais pas comment on peut dire ça, je dirais, c'est du lien social.
Hop. Et puis c'est le but de venir faire la causette.
Oh, il y a ça, et puis ça fait de la gymnastique en même temps.
Oh, on ne perd pas trop de poids. On a du mal.
Et l'indépendance de Douarn, qu'est-ce qu'ils ont pensé, Francis et Raymond ?
On veut du changement. Il ne faut pas avoir peur. Moi, quand je partais en mer, je n'avais pas peur des tempêtes. Je savais que j'allais vers les tempêtes. J'ai jamais eu la trouille. Bon.
Et là, ce qu'on fait à l'heure actuelle maintenant, c'est on travaille pour vous,
oui.
Pour les jeunes.
Ben, il est très content de le faire parce que le grand-père et le père ont fait pareil. Bon, c'est la vie, ça. Oui. Ça fait partie du folklore de la vie. Ouais. C'est heureux de le faire.
Et alors, vous avez avancé ?
Comment ?
Vous avez avancé ?
Oui, mais. Il est fatigué, alors nous, on se repose.
Ah, ouais.
Non, c'est pas ça. Le motoculteur, okay. Il attend que.
Il fallait se rendre à l'évidence. Ils étaient très sympas, Francis et Raymond. Mais on n'allait pas forcément pouvoir compter sur eux et leur jardin partagé pour nourrir 14 000 personnes.
On avait peut-être vu un peu trop grand. Mais au jardin de Kermaron, on avait au moins appris une chose en regardant travailler cette bande de joyeux retraités.
Si on ne voulait pas reproduire les clivages d'une société fondée sur la marchandise, l'industrialisation, l'exploitation de la nature et l'argent, il allait falloir qu'on mise sur l'humain, avec un grand H.
Qu'on arrive à trouver, comme Francis et Raymond, les moyens de s'entendre, de se parler et de s'entraider, pour comme eux fabriquer quelque chose ensemble, même de tout petit, mais en dehors de tout rapport de force et de compétition.
Sortir de la loi de la jungle, de la production forcenée et de l'isolement. Elle était peut-être là notre révolution.
Pour s'en convaincre, sur le chemin du retour, on a fait un crochet. On est allé à la rencontre du seul douarneniste qui avait fait sécession à l'intérieur de la sécession, Bernard Konidek.
Et pourquoi ?
Oui, bonjour, c'est pour une interview.
Bonjour. Bernard Konidek.
L'idée de Bernard, c'est de construire un mur.
Dans son jardin.
Tout seul.
Contre le monde.
Voilà, comme vous voyez, il y a le. Là, j'ai fait les fondations du mur avec donc du ciment, de la pierre de Douarnenez. Et du coup, j'ai fait les premiers 30 cm, quoi.
D'accord. Un mur de 30 cm.
Mais pour se protéger de quoi ?
Ce mur, c'est un rempart contre la barbarie. Il y en a qui disent c'était mieux avant. C'est faux. Avant, moi, j'ai connu. C'était pas mieux. Non, ce qui était mieux, c'était avant.
Et donc, vous voulez un nouvel avant-avant, ici ?
Exactement. Là, mon futur à moi, ça va être la même chose qu'avant l'avant. Et mais une fois, ceux qui sont motivés pour venir dans mon futur, ça peut devenir leur présent. Moi, je suis ouvert, hein.
Non, merci, Bernard. Ce sera sans nous.
Mais au fait, il faut quoi pour avoir le droit de vous rejoindre?
Il faut des valeurs. Il faut des valeurs. La terre, la patrie, les parents, la famille, et des biceps, quoi. Et puis, parce qu'il faut sortir les doigts des poches.
Et Bernard a développé un sacré concept, celui du jardin partagé par lui seul.
Vous êtes un peu en autosuffisance?
Absolument. Derrière, il y a les poules. Donc, avec les œufs, je me fais des omelettes, je me fais des gâteaux. Donc là, vous avez des pommes. J'ai mon pressoir derrière. Voilà. Donc, vous voyez que c'est la belle pomme de pays, quoi. Ça vous fait rire, la belle pomme de pays? C'est le mot pays qui vous...
Et parfois, Bernard s'énerve.
Oh hey, qu'est-ce que vous foutez là? Propriété privée! Mais non, mais les gars, ils se croient tout permis, hein.
Au bout du compte, Bernard, la solitude, ça le touchait?
Bah, finalement, déjà, y a pas beaucoup de gens à qui je veux parler. Mais maintenant que vous me posez la question, je me rends compte que... y a pas beaucoup de gens qui me parlent à moi.
Bernard Konidek, plus indépendant que les indépendantistes. Il nous a fait pas mal flipper avec son histoire de mur. À Douarnes, on a établi une nouvelle frontière. Mais ça voulait dire quoi, au fond?
Pour être sûr que notre nouveau pays ne se transforme pas en forteresse, on est allé discuter avec Yann, responsable d'un festival de cinéma à Douarnenez. Un festival sur les minorités, un peu comme ce qu'étaient finalement devenus les habitants de la ville.
Pour moi, Douarnenez, c'est un peu une île. D'ailleurs, ça fait partie de son nom. Et le propre du Nil, c'est souvent de cristalliser tout ce qu'il y a de meilleur et de pire.
Ça, le pire, on vient d'y avoir droit. Mais elles servent à quoi, au fait, ces frontières?
Il y a des peuples qui ne peuvent même pas concevoir, ou c'est la notion même de frontière, même la notion de propriété. Par exemple, chez les aborigènes, la notion de frontière n'existe pas, la notion de propriété non plus. Par contre, il y a des territoires, eux, les frontières, ils les chantent. Donc par exemple, si tu arrives sur le territoire d'une communauté aborigène, l'autre communauté doit connaître le champ pour pouvoir la traverser. Donc si bon, nous, évidemment, aux douaniers ou à la police de l'air, ça ne suffit pas de chanter pour passer les frontières.
Ça, on confirme. Mais finalement, une frontière, ça peut être un truc positif ou pas?
Certains réclament paradoxalement des frontières, même chez des réfugiés ou des migrants qui, eux, peuvent se heurter, par exemple, à la forteresse Europe, donc soit aux murs ultra sophistiqués, ultra policiers, par exemple, à Ceuta et Melilla, en venant de Tanger, ou en traversant cette frontière liquide qui tue, qui est la Méditerranée, en passant par Vintimille à la fin de l'Italie, par la vallée de la Roya, par exemple, ou le corridor des Balkans. Donc, paradoxalement, ils se heurtent à des frontières, à des murs, tout ça. Mais parfois, chez eux, notamment en Afrique subsaharienne et tout ça, parfois, quand ils fuient des guerres, ils sont heureux d'avoir une frontière derrière pour pouvoir se réfugier.
Ok, on avait bien compris le message. Et Yann nous a même fait une fleur en guise d'expérience pratique. Il nous a permis d'entrer dans le premier camp d'accueil de Douarnes Libre. Là, on a rencontré Mathieu, qui nous a expliqué de quoi il s'agissait.
Beaucoup de Français, qui n'étaient pas tellement contents du résultat des élections, ont voulu s'implanter sur Douarnenez, ce qui a posé un certain nombre de problèmes, parce que ça a été assez massif, en fait. On a des dizaines de personnes, dès le soir des élections, qui sont arrivées. Et il a bien fallu loger tout le monde, en sachant qu'il n'y avait pas forcément les infrastructures en ville pour se permettre d'accueillir tous ces gens.
Mais au fait, ça vient d'où cette idée?
C'est un geste pour les Français, on a tous été Français à un moment, nous aussi, on l'est plus, mais on a été Français, et donc c'était normal d'aider des gens qui ont été un jour nos concitoyens.
Oui. Dites, il est pas mal installé ce camp, non?
Oui, c'est convivial. Enfin, on a quand même au début, on a dû séparer les mélanchonistes, des hamonistes, la gauche de la droite, des fillonistes. Les gens étaient d'accord pour fuir la France, mais ils ne fuyaient pas la France pour la même raison. Donc on n'a pas pu les. Enfin, quand les fillonistes ont rencontré les mélanchonistes dans le camp, ça a évidemment créé d'énormes problèmes. Et on a dû donc faire des. On a dû mettre plusieurs départements, si vous voulez, dans le camp.
Et est-ce que donc les logements sont adaptés aux différents partis?
Non, ça on n'a pas.
Non. On n'est pas jusqu'à ce point-là.
Ce que vous voulez dire, la droite aurait eu des logements plus grands, c'est ça?
Oui.
Pendant des jours, on a continué nos balades pour préparer cette émission.
On est allé voir tout le monde, tous ceux susceptibles d'apporter leur pierre à l'édifice.
Le lundi, on allait chez les défenseurs de la langue bretonne pour essayer de déchiffrer avec eux ce qu'on pourrait faire ensemble.
Le mardi, on avait rendez-vous aux ateliers de l'enfer sur le port, parce qu'il faudra bien qu'on apprenne un jour à les fabriquer nous-mêmes, les bateaux.
C'est un bateau qui peut aller et en mer et sur les fleuves, donc les dérives sont... Alors là, justement, c'est pour ça que le gouvernail et la dérive lui permettent d'avoir de la stabilité, sinon il roulerait comme un tonneau dans l'eau.
Le mercredi, on embrouillait le proviseur du lycée.
Une hiérarchie en fait qui serait complètement renversée.
Pour faire de Jean-Ma un lycée autogéré. C'était pas gagné.
D'accord, je comprends bien, mais le. Non, il faut bien que. Dans les. En fait, ce que vous voulez, c'est savoir pourquoi on. Si ça change, eh bien, soit. On peut. On peut imaginer des tas de choses.
Le jeudi, on passait dire bonjour à Sylvie, artiste originaire de Douarnenez, qui prévoyait la construction d'un monument officiel à la gloire de la ville et de sa libération.
Ce que je verrais, c'est sous le pont du Poru, qui relie Tréboul et Douarnenez, une espèce de lustre mais monumental, mais vraiment absolument énorme, suspendu à un énorme banc d'hommes et de femmes qui s'amusent à faire tous ensemble un espèce de banc de sardines.
Le vendredi, on filait à Morlaix, en apprendre un peu plus sur le buzuk, une monnaie locale alternative, parce qu'évidemment, on n'allait pas en rester à l'euro.
Alors le buzuk, c'est quoi? Ça s'enregistre là?
Ouais, ça s'enregistre.
Du coup, le buzuk, c'est une monnaie locale qui contribue à acheter local, aux petits artisans du coin, aux producteurs locaux. Ça favorise les circuits courts, ça favorise l'échange humain, ça n'a aucun intérêt d'être en banque. Enfin, il n'y a pas de spéculation sur cette monnaie-là.
Le samedi, c'était l'inauguration de l'ambassade de Pologne à Douarn. Et on n'était pas complètement sûr que c'était une bonne nouvelle, vu la politique qui menait là-bas.
Le dimanche, enfin, on partait à la rencontre de jeunes entrepreneurs de la ville.
Bonjour, bienvenue.
Merci de nous recevoir.
Donc Philippe Pagenec, j'ai 39 ans et je viens de créer un réseau social exclusivement centré sur Douarnenez. On l'a appelé Bracebook. Hein, on n'est pas forcément allé chercher
et toute
loin,
la semaine, on s'engueulait.
Ouais, genre vraiment, je pense qu'ils ont peur parce que tu les agresses, mais genre vraiment, tu fais bon alors. Je te calme, je sais pas ce que tu prends un relaxant des huiles essentielles.
On se réconcilie.
Et parfois aussi, on enregistrait des pubs pour les commerçants locaux.
Ce soir, c'est sardines grillées, chérie.
Comment ça?
Mais oui, les fameuses sardines du nouveau pays d'Ornaniste.
Combien le kilo?
À 90.
Vraiment?
Oublie pas ton passeport, on va chez Loïc, le poissonnier des Poru.
Les jours passaient ainsi à Douarnenez et le pays lentement trouvait ses marques.
Nous, on a finalement réussi à se faire entendre.
On a même eu le droit de participer aux réunions de la salle des fêtes et surtout, on nous a donné le droit d'émettre en FM.
Les premières semaines de la sécession, on a beaucoup appris sur notre ville, sur ses habitants et sur nous-mêmes.
Et tous les douarnenistes, finalement, avaient beaucoup appris.
Parce qu'ici, la vie quotidienne, c'est lié à la construction d'un nouvel État, que nous façonnions ensemble, au jour le jour, sans tenir de cap, ni de feuille de route, et sans chercher à atteindre d'objectifs ou de finalités.
Explorer l'étendue des possibilités que pouvaient receler 14 483 vies humaines ne se ferait pas en un jour.
Nous n'en étions qu'au début.
Le début d'un monde fait de beaucoup de monde.
Bien sûr, il y aura encore des conflits, des assemblées houleuses et des décisions bancales, mais il y aura aussi des rencontres et de la bienveillance.
Parce que tous ensemble, nous tenterons d'affirmer quelque chose de neuf.
En préservant les singularités.
En construisant sur la durée.
En faisant autre chose que de la politique.
En replaçant la nature au centre d'un projet commun.
En faisant des pennes sardines de Marianne et de la fête des gras, notre fête nationale.
Et pendant que nous apprenons à rendre nos gestes plus sûrs et nos amours plus forts, une histoire s'invente ici. À chaque pas que nous faisons, une histoire toujours bouillonnante et incertaine. Celle d'une petite ville devenue le symbole d'un grand soulèvement.
Demain s'ouvre au pied de biche.
Une émission imaginée, improvisée, écrite et réalisée par les élèves de première L du lycée Jean-Marie Lebrise de Douarnenez.
Gaëdic,
Servan,
Julie,
Sharon,
Saskia,
Manon,
Louise,
Annaëlle,
Lisa,
Alexandre,
Bertie,
Hugo,
Chélienne,
Marlène,
Lisa Lou,
Jasmine,
Laura,
Mathéo,
Lisa,
Aïda,
Luna
et Alexandre.
Remerciements à Daniel, François, Fabrice et Victor, ainsi qu'aux élèves et aux professeurs du lycée Jean-Marie Lebrise, à tous les habitants de Douarnenez et à toute l'équipe du festival Longueur d'onde. Douarnenez.
Inouï.
Inouï.
Une émission de création et documentaire sonore des étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Retour sur cette expérience avec Aïda, Bertie, Bastien et Alexandre.
Alors, je m'appelle Alexandre Planck, je suis réalisateur d'émissions de radio, que ce soit des émissions de fiction, des émissions de création, des émissions documentaires. Il y a 2 ans, l'association Longueur d'onde, donc, qui fait le festival Longueur d'onde, m'a proposé de faire ce qu'ils appellent une résidence d'artiste en milieu scolaire. Et donc de travailler avec des lycéens, de passer du temps dans un lycée et d'inventer une émission ou plusieurs émissions de radio avec eux. Alors au début, j'ai fait un peu la gueule, je me suis dit, oh là là, non, des lycéens, je suis pas sûr du tout que ça m'intéresse de travailler avec des lycéens. Finalement, je me suis dit, bon, peut-être, je vais au moins aller voir ce qui se passe là-bas, comment ça marche. Et j'ai d'abord rencontré les profs avec lesquels je me suis très bien entendu. On a essayé ensemble d'inventer, de délimiter un sujet, et puis j'ai rencontré les élèves avec lesquels je me suis encore mieux entendu. Et donc, j'ai décidé d'accepter de rester travailler pendant 4 semaines, à habiter dans le lycée, à manger. Voilà, c'était une immersion assez intéressante, hein. Moi, je voulais juste faire de la radio, parce qu'on dit tout le temps, la radio, c'est ça ou ça. La radio, c'est ou des journalistes qui font des interviews, ou des réalisateurs de fiction qui font de la fiction, ou des producteurs de documentaires qui font du documentaire. Je voulais simplement, moi, qu'on fasse tout ce qu'on ait envie de faire, sans aucune limitation. Donc, se dire, il va y avoir des interviews, il va y avoir du documentaire, et il va y avoir de la fiction, et il va y avoir une histoire. Et à partir de là, on ne s'interdit rien. Et il y a même une des versions de l'émission sur laquelle on a fait de la musique. Et je voulais juste qu'on se dise, on raconte quelque chose ensemble. Et à partir de là, tout est utilisable pour faire de la radio. Et puis vraiment, c'était des élèves qui étaient capables de faire feu de tout bois.
Je m'appelle Aïda. Et en fait, on a décidé de faire une fiction radio. On s'est inspiré du thème des élections, du coup. Et on s'est dit que... À Douarnenez, personne ne voterait aux élections et que du coup, ça deviendrait un pays. On est parti de là. C'était l'idée de base.
Du coup, il y a des idées qui sont sorties avec des démocraties participatives, représentatives, des alternatives écologiques, des monnaies locales. Il y a direct plein d'idées qui sont sorties. Et il fallait trouver des contenus un petit peu drôles et tout ça. Donc, c'est sorti très vite, je trouve. Ouais. Quand même.
Non, on a dû passer au moins 4 heures au moins à trouver les premières idées. Et après, on a commencé à pousser un peu plus pour essayer d'avoir vraiment des pistes de recherche précises pour aller interviewer des gens et des trucs comme ça.
De base, en fait, quand il nous a présenté le projet radio, moi, je sais que je connaissais pas beaucoup. J'avais quand même fait quelques interviews avant, mais je connaissais pas énormément. En fait, c'était hyper dur, je trouve, de trouver un fil conducteur avec toutes les idées qu'on a eues parce qu'on a vraiment sorti plein de choses.
Moi, je voulais travailler sur les élections. On s'était dit ça très rapidement avec Anne-Claire de l'association Longueur d'onde, parce que c'était le moment des élections. Tout le monde ne parlait que de ça, et je voulais qu'on essaye de trouver un angle un petit peu différent. Mais j'avais absolument pas l'angle. C'est vraiment en parlant avec d'abord les professeurs et puis avec eux, et qu'il y a quand même une histoire particulière ici. Il se passait à ce moment-là pas mal de choses sur la ZAD. Et donc, tout ça créait un imaginaire politique assez fort chez les élèves de Douarnenez, qui assez rapidement m'ont dit, mais pourquoi on n'imagine pas l'invention d'une ville nouvelle ou quelque chose qui se passerait de définitif, et plutôt que travailler sur l'abstention, abstenons-nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, Douarnenez n'a pas voté, Douarnenez est exclu du pays, de la République française, donc Douarnenez doit apprendre à subvenir elle-même à ses besoins, doit trouver le moyen de survivre en tant que ville qui devient un petit État. Donc ça c'est la fiction qu'on a fixée d'emblée. Et à partir de ça, on est allé voir les gens, on les a interviewés, on leur a posé des questions. Certains étaient au courant de l'histoire, d'autres, ça n'a pas été la peine qu'on leur raconte. Mais on s'est plutôt dit, voilà, on va voir les gens en leur demandant ce qu'on peut inventer pour l'avenir de la ville. Et donc, on a essayé de tirer les fils de toutes les conséquences que cette question-là pouvait poser. Ensuite, quand on a eu beaucoup de matière, on s'est dit, ok, maintenant, il faut trouver le moyen de l'organiser, cette matière. Et là, moi, j'ai demandé aux élèves d'écrire des textes sur ou les gens qu'ils avaient rencontrés, ou sur ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils n'aimaient pas. Par exemple, quand ils vont au jardin de Kermaron, est-ce que ça les touche ? Qu'est-ce que ça leur fait de rencontrer des vieux qui font du jardinage parce qu'ils se sentent moins seuls ? Et à partir de ça, moi, j'ai tout réorganisé. À partir de ça, je reprends leurs phrases, parce que je pense que dans l'émission, là, il doit y avoir 10 phrases qui sont à moi. Mais sinon, toutes les phrases sont des phrases qu'ils ont écrites. Alors peut-être qu'ils sont déplacés un peu de leur contexte des fois, qu'ils ne viennent pas au moment précis où eux auraient pensé à les mettre, mais parce que pour jouer sur l'attente de l'auditeur ou quoi, j'ai voulu le déplacer un peu, mais c'est vraiment à partir de leurs idées politiques. On a lu des bouquins sur l'utopie, sur l'AZAD, vous voyez, sur les phénomènes altermondialistes, sur tout ce qui se passe plutôt à gauche, très à gauche. Mais donc, ils étaient au courant de ça. Pour faire des peines sardines nos Mariannes et de la fête des grains notre fête nationale, c'est pas ma phrase. Eux sont partis au quart de tour. C'est-à-dire qu'ils ont eu 50 idées, 50 propositions qui allaient dans ce sens-là. De se dire, OK, réinventons quelque chose. Parce que de toute façon, je pense que c'est une génération qui est confrontée à ça tous les jours. Et là, ça excède totalement la dialectique gauche-droite. C'est pas des élèves à gauche, des élèves à droite. Il n'y a pas des réactionnaires, des non-réactionnaires. C'est qu'ils se disent simplement, ça ne marche pas, on réinvente. On réinvente en plus petit, on réinvente avec des circuits courts, on réinvente en mangeant plus de viande, comme certains le proposent. On réinvente avec des vélos plutôt que des voitures. Mais ça, il n'y a pas une seule de ces idées qui m'appartient. C'est vraiment le camp des accueillis à la fin, par exemple, c'est une idée qui est venue dans nos moments de brainstorming le matin quand on se disait, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Y en a un qui dit, les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont préférer Douarn à un moment, donc il faut les accueillir. Et donc, ce n'est pas un camp d'exilés ou de réfugiés, c'est un camp des accueillis. Et c'est leurs idées, c'est leurs propositions.
Quand on nous a dit qu'on allait faire une émission de radio, on ne pensait pas du tout que ça allait être quelque chose comme ça. C'était vraiment différent de ce que je pensais personnellement.
C'était super agréable à faire. C'est une super expérience. Enfin, la plupart de la classe a une expérience super positive avec, avec ça. Donc c'était vraiment passionnant. Moi, je voulais déjà faire des documentaires plus tard, mais c'était plus au niveau de l'image. Et là, je me suis dit que même faire des documentaires au niveau sonore, ça m'intéresserait aussi, parce que le fait de rencontrer Alexandre Plan, qu'on avait déjà fait, et même avec le festival Longueur d'onde, le fait de rencontrer des professionnels qui faisaient des documentaires, du journalisme avec du matériel sonore, c'est inspirant, du coup, ça peut ouvrir des portes pour plus tard.
Moi, je sais que je suis pas en option cinéma, personnellement, mais de base, je suis aussi plus intéressée par l'image parce que je voudrais faire de la photo. Et en fait, d'avoir fait ce projet radio, je me suis vraiment énormément impliquée et j'ai vraiment adoré ça. Et ça m'a fait vraiment me poser des questions. Et même actuellement, alors que je suis censée faire mes vœux dans une semaine, et je sais toujours pas si je veux me faire de la radio ou de la photo.
Merci à Aïda, Bertie, Bastien et tous les lycéens de la section L du lycée Jean-Marie Lebrun, ainsi qu'à Alexandre Planck.
Et à bientôt pour de nouvelles découvertes sonores sur Inouï.
Inouï, une émission de création et documentaire sonore par les étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.